Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les mercredis.
Et oui, nouveau créneau.
Désormais.
Bonjour
mercredi,
Richard.
Bonjour Tancred.
Pierre-Henri,
pardon.
Bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver sur Radio Courtoisie. Et oui, alors nouveau créneau, on vous l'avait annoncé la semaine dernière. On est passé du lundi au mercredi, mais toujours à la même heure, 17h et 17h30. Et on réattaque cette nouvelle année, lendemain de rentrée scolaire, déjà rentrée politique, par une émission d'actualité où on va parler d'international et de national. On a beaucoup de choses à dire.
Oui, on a beaucoup de choses en très peu de temps. Donc on va essayer de synthétiser. Nous allons parler, pour l'international, des accords pétroliers entre les États-Unis et le Venezuela. Et puis un peu de ce qui se passe en Iran. Pierre-Henri, on peut constater que ça patine un peu, mais on en parlera.
Bah oui, exactement. Voilà. Voilà. Après, ça ne bouge pas beaucoup.
On va parler du lancement de la campagne présidentielle en France, avec
il y a des histoires de voile, de bac à frites.
Oui.
Et puis c'est pas génial.
Et
quand
puis
même,
du voilà. Niveau qui n'est pas fameux. Hein.
Non. Bon.
Et donc commençons par cette affaire de pétrole vénézuélien. Moi j'ai parcouru un peu, j'ai fait une petite revue de presse sur ce sujet et comme d'habitude, la presse française parle de vol du pétrole vénézuélien. De toute façon, dès qu'il s'agit de pétrole et des États-Unis, les deux mots magiques,
oui.
Pétrole, États-Unis, égale vol, systématiquement.
Vous remarquerez que l'argument du vol des matières premières, c'est l'argument vraiment des tiers-mondistes, des pays du tiers-monde.
Oui.
Généralement, avant, c'était les pro-soviétiques.
Oui. On nous accuse, nous, de voler l'or et le pétrole africain, d'ailleurs.
L'or, le pétrole, l'uranium. Le Niger et tous les pays dans lesquels on exploite des mines d'uranium nous disent « Vous nous volez nos ressources, vous nous volez... »
L'extrême gauche, d'ailleurs, française, qui est des Français, donc, accuse leurs compatriotes, accuse leur pays de voler les richesses des Africains.
Mais là, après donc le renversement et la capture de Maduro, c'est toujours officiellement la République bolivarienne du Venezuela, qui est donc dirigée par une présidente par intérim, Delcy Rodriguez, qui ne se plaint pas du tout que les États-Unis leur volent leur pétrole, au contraire, qui vante un énorme accord qui vient d'être signé, dont on connaît pas énormément de détails, mais on voit à peu près les ordres de grandeur, ou les volumes.
Oui, mais en tout cas, les détracteurs de ce que vous venez de dire vous rétorqueront que elle est vendue, que c'est la femme de, pour ne pas dire l'homme de Trump, c'est la femme de Trump, la femme pas son épouse évidemment.
L'homme de paille, la femme de paille,
voilà,
la femme de paille.
Voilà. Voilà, ça fait partie des traîtres, vous savez.
Ouais.
En réalité, de quoi s'agit-il? Le Venezuela, donc comme vous me l'a rappelé hors antenne Pierre-Henri quelques minutes, est le premier réservoir de pétrole au monde.
Estimé 300 milliards de barils.
Et conséquence de ça, c'est un pays extrêmement pauvre où les gens n'ont pas de quoi se nourrir.
Tout à fait.
Pourquoi ? Parce que, comme disait autrefois Jean-Marie Le Pen, vous donnez le désert à des socialistes, il y aurait une pénurie de sable au bout de quelques jours.
Et c'est à peu près ça, puisque première réserve prouvée, seulement 20e exportateur mondial, avec une production estimée à 1 200 000 barils par jour, ce qui est hyper faible.
En réalité, le pétrole vénézuélien, ils ne le sortent pas correctement, ils ne le vendent pas, et bon, ils ont un peu d'argent parce qu'ils en vendent quand même, mais enfin, ça reste très faible, et donc le pays est pauvre, etc. Donc l'accord là avec les Américains, c'est que il y a une... Alors on ne connaît pas trop les détails, il y a des informations qui sont contradictoires, mais dans tous les cas, globalement, il s'agit d'une société vénézuélienne dans laquelle les États-Unis prennent une participation, et c'est là où on ne sait pas si c'est 35, 55%,
voilà.
Bon, peu importe, en tout cas, ils ont une participation dans cette société pétrolière, et donc effectivement, les Américains, mais quand on dit ils ont une participation, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre... Admettons que c'est 55, par exemple. Ils vont pas prendre 55 du pétrole vénézuélien comme ça, gratuitement. Ils vont investir, parce que si ce pétrole ne se vend pas par le Venezuela, c'est parce qu'il n'est pas exploité. Et donc, pour l'exploiter, il faut des investissements énormes.
Énorme.
Donc, cette société va investir. Donc, en fait, les Américains vont investir au Venezuela, faire des investissements de recherche, de gisements, etc., etc. Tout ça, c'est des milliards et des milliards. Et ils seront gagnants, bien évidemment.
Évidemment.
Mais vous savez, un homme d'affaires, il investit, il veut son retour d'investissement.
Voilà.
Donc, les
Même
Américains.
Si c'est dans 20 ans.
Voilà. Les Américains Américains vont investir et ils vont prendre une partie de ce pétrole, un tiers, la moitié, peu importe. Mais en contrepartie, les Vénézuéliens, eux, vont bénéficier de cette partie, qu'elle soit 50 ou 35% de l'autre côté, ou 70%. Cette partie, ils vont la gagner, alors que pour le moment, elle est gelée, il ne se passe rien. Mmh. Et puis, deuxième chose, très bien, les États-Unis vont gagner encore plus, etc. Parfait. Mais si ce n'est pas eux qui le font, qui va le faire? Ce ne sont pas les Vénézuéliens, sinon ils l'auraient fait depuis 20 ans ou 30 ans.
Réponse,
ce seront les Chinois, les Russes. Voilà. Et donc,
principalement, sans doute les Chinois.
Donc, si on veut parler de vol, ben, quelqu'un le volera, ce pétrole. Si ce n'est pas les Russes, les Chinois ou les Américains, ben, ce sera la classe politique corrompue vénézuélienne.
Hein. Oui, donc, ce qui se passe dans beaucoup de pays africains.
Quelqu'un va le voler. Voilà.
Donc, exactement. Mais c'est le ministre de l'énergie américain, Chris Wright, qui le dit. Si nous ne prenons pas ces parts-là, ce seront les Chinois ou les Russes. Voilà. Oui. Donc au moins, il a la franchise de le dire. Oui.
Et après, c'est vrai. Mais,
d'une part, c'est vrai. Et d'autre part, en fait, ça rejoint quand même un petit peu la question pour la France de la Nouvelle-Calédonie.
Oui.
On en parle beaucoup,
absolument,
vous le savez. Deuxième réserve mondiale de nickel. On n'est que le troisième producteur exportateur, mais on a les deuxièmes réserves prouvées.
Oui.
Et puis, la question depuis 30 ans de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, en direction de laquelle Emmanuel Macron a fait quand même un grand pas avec la création d'une espèce de constitution et de citoyenneté un peu à part, même si c'est pas une indépendance pleine et entière, alors que trois référendums l'ont rejeté, cette indépendance. Mmh. On sait pertinemment que ce nickel-là, auparavant, il était guetté par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et maintenant, ce sont les Chinois. Mmh. Et leur proxy d'Azerbaïdjan.
C'est ce que j'allais vous dire, l'Azerbaïdjan.
C'est la même chose dans le cas du Venezuela. Oui. Si on ne met pas une grande puissance, je ne vais pas dire la France parce qu'on ne l'est plus, mais comme les États-Unis, ça sera une grande puissance comme la Chine qui ne nous veut pas que du bien, le moins qu'on puisse dire, qui s'y mettra à la place.
Oui. Donc, c'est beaucoup plus la Chine que la Russie d'ailleurs. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, sous Maduro, c'était les Chinois qui prenaient le pas sur les
Russes. Les Russes étaient là.
Absolument. Le meilleur client des Vénézuéliens était les Chinois.
Mm.
Et donc, dans tous les cas, l'idée farfelue ou naïve ou bon enfant ou bisounoursienne, appelons ça comme on veut, si les Américains ne volent pas le pétrole du monde entier, eh bien c'est le peuple souverain de ces pays qui va en bénéficier, est une fable. En réalité, il peut en bénéficier, bien sûr, mais si l'on peut penser une seconde que la totalité du pétrole d'un pays comme le Venezuela ou d'autres pays d'Afrique iront à 100% pour leur propre population, ce n'est pas vrai. D'abord parce que ces populations-là ne sont pas capables, n'ont pas le savoir-faire pour l'extraire et le vendre. Voilà.
Ouais.
Donc, et d'ailleurs, on peut appliquer ça pour nous. On peut, d'ailleurs, ça se fait parfois. On peut dire, dans ce cas-là, la France vole le pétrole de plein de pays d'Afrique, puisque Total est très bien implanté en Afrique.
Bien sûr.
Et donc, d'ailleurs, je vais vous dire, l'extrême gauche accuse Total en permanence de voler, etc. Donc ça, cette histoire de vol, ça suffit. On a envie de dire ça suffit. Une compagnie comme Total, il faut être fier d'avoir une compagnie comme Total qui, parce que si c'est pas Total qui investit dans ces pays-là, eh bien ça sera les Chinois, etc.
On a l'impression que la gauche, alors bien évidemment la gauche qui soutient des régimes qui volent eux véritablement, qui pillent,
qui tuent.
Il y a qu'à regarder la Chine qui est l'un des grands modèles de Jean-Luc Mélenchon, mais cette gauche-là, quand elle vous parle de vol des ressources et des matières premières, on a l'impression qu'elle voudrait qu'il soit créé pour le pétrole ou pour le gaz naturel ce qu'on appelle le commerce équitable pour le cacao.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va, comme on paye la fève de cacao, le kilo de fève de cacao directement aux paysans producteurs récoltants, là on va payer eh bien, le baril de pétrole directement au petit paysan qui l'a sorti de son jardin. Ça marche pas comme ça le pétrole.
Bien sûr, oui.
Ni le gaz naturel, ni la plupart des ressources et des métaux rares.
Un savoir-faire que peu de pays possède.
Bien sûr.
Nous avons la chance, nous en France, d'ailleurs on a beaucoup de savoir-faire en France, on n'arrête pas de nous dévaloriser nous-mêmes, on a beaucoup de savoir-faire qui est freiné par nos dirigeants qui, je ne vais pas utiliser des insultes à l'antenne, mais enfin bon, vous savez de quoi on pourrait les qualifier.
Et ça a commencé très tôt, on ne va pas revenir sur
nucléaire.
Et le pétrole du Sahara,
oui.
Le Sahara algérien qu'on a complètement bradé.
On a les meilleures compagnies
au début de la Ve République.
En France, on a les meilleures compagnies pétrolières, on a le meilleur.
Pour le offshore, nous sommes premiers.
Voilà.
Et donc, devant les Américains, devant les Norvégiens, pour l'offshore, on est premiers.
Nous avons un savoir-faire dans le nucléaire, nous avons un savoir-faire, malheureusement, qui est en train de baisser à cause de nos gouvernants.
Bien sûr.
Et la pression des écologistes sur eux. Et puis, nous avons un savoir-faire dans l'industrie pétrolière, gazière, et en même temps, tout ce qui est gaz liquide, etc., une compagnie comme Air Liquide qui est un fleuron mondial dans ce secteur. Nous avons beaucoup de savoir-faire. Malheureusement, ce savoir-faire est freiné parce qu'on pointe du doigt ces entreprises en disant « Oh, elles gagnent beaucoup d'argent ». Enfin, oui, vous préférez quoi vous préférez des entreprises d'État qui sont gérées par des soviets suprêmes et qui finissent en faillite comme l'Union soviétique ?
Et d'une part et d'autre part aussi, bien évidemment, parce que l'un des effets de la lutte anticorruption, mais dans sa tendance de gauche qui est menée depuis les années 90, rappelez-vous Eva Joly, oui. Laurence Wisniewski, etc. Oui. Ça a été en fait de nous faire perdre des marchés que les concurrents, qui eux n'abandonnent absolument pas certaines méthodes comme les rétrocommissions, or morale, immorale, ça se discute.
Ça tombe bien, vous parliez de ça, Pierre.
Voilà.
Je vais vous dire pourquoi.
Mais eux, ils continuent d'utiliser les mêmes méthodes, ils prennent les marchés à notre place.
Et bien, figurez-vous que Vincent Bolloré va être jugé en décembre pour avoir financé une campagne électorale ou un président africain afin d'obtenir un marché. Et il est jugé en France, vous savez, on a envie de dire, entre guillemets, de quoi je me mêle, parce qu'il ne s'agit pas de pot de vin en France. Et les Africains ne l'ont pas jugé. Alors il est jugé en France pour avoir financé une campagne électorale, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, afin d'obtenir un marché.
Mais sur le marché télé, je crois, pour Canal+.
Je ne sais plus. Non, c'était avant, c'était à l'époque où il n'était pas du tout... Non, c'était une époque où Vivendi ne lui appartenait pas. Ouais. Il avait des marchés africains dans le transport. Il me semble, logistique, exact, etc. Ouais. Et donc c'était pour ça. C'était sur un port ou un. Et, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, ce qui est important dans ce dossier, c'est qu'il a financé une campagne, en contrepartie, il a eu un marché. Mais s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été une société américaine, allemande, chinoise, japonaise, que sais-je, coréenne, qui l'aurait pris, ce marché. Et donc, ça, le bisounoursisme, ah non, mais c'est pas bien. Oui, bah, c'est pas bien, dans ce cas-là, on fait rien. Voilà, on ne fait rien. Ces pays fonctionnent comme ça. Alors, si on veut vivre dans notre bulle, nous, alors on veut interdire les voitures électriques, on ne veut pas de nucléaire, on ne veut rien, et on ne pollue pas chez nous. Et très bien, enfin, les autres polluent autant qu'ils veulent, ce qui ne change rien à la planète. Parce que voilà, et puis nous on va mourir de faim et eux ils vont s'enrichir, et nous on va être des gens très mourir de faim proprement.
En fait, c'est se désarmer tout seul. Quand vous montez sur un ring, vous ne vouliez pas les mains derrière le dos, alors que votre adversaire lui a mis des points américains ou autres.
C'est bien gentil de jouer la morale, mais quand tout le monde la joue. Si on la joue seul, on est mort.
Exactement. Voilà. Si les règles sont faites pour être suivies par tous, si elles ne sont pas suivies par tous, eh bien, soit on est naïf et on perd malheureusement la plupart du temps, même si c'est immoral.
Mais vous savez,
c'est cyniquement parlant, c'est vrai.
C'est comme ça. Et au lieu de pointer du doigt les Américains en disant au scandale les voleurs, il faut les concurrencer.
Exactement.
Parce que personne n'est voleur en réalité. C'est des affaires. Et donc. Moi, je regrette que ça soit les Américains qui prennent ce marché et pas la France.
Ah voilà. Je ne vais pas les blâmer.
Ils ont été meilleurs que nous parce qu'ils sont plus puissants, parce qu'ils n'ont pas froid aux yeux, comme on dit. Je n'arrête pas d'utiliser des expressions un peu.
Non, mais c'est ça.
Et nous, on est là, en train de faire la morale, en train de pleurnicher.
Ils ont encore le courage de leur puissance. Nous avons de moins en moins de puissance. Et nous n'avons
et même quand on en a encore un peu, on s'en excuse.
Exactement.
Vous avez cité la Nouvelle-Calédonie, on s'excuse de.
Oui, d'avoir des possessions d'outre-mer.
On s'auto-flagelle en nous.
Période coloniale.
Qualifiant nous-mêmes de salauds colonisateurs, etc.
On aura l'occasion d'en reparler, on en a déjà parlé, parce que c'est le seul endroit où les hommes politiques parlent de peuples autochtones qui auraient des droits supérieurs aux Européens qui viennent y vivre. Tiens donc.
Là, les races ne sont plus égales.
Exactement. Et puis on demandera, un jour, on demandera la même chose pour l'Hexagone. Tiens. Un petit mot pour
sur l'Iran.
comment dire, c'est une espèce de cercle qui n'en finit pas. Donc là, il y a eu de nouvelles frappes ces derniers jours. Nos auditeurs ont
l'Iran a répliqué aujourd'hui.
L'Iran a répliqué, cette nuit. Alors sur plusieurs frappes. Alors en particulier sur une base américaine. Les Iraniens ont dit qu'ils avaient fait plusieurs morts. On n'a pas eu de confirmation, je n'en ai pas trouvé, mais ils ont aussi frappé la Jordanie, ils ont frappé le Koweït, ils ont frappé les Émirats, à chaque fois pour viser, disent-ils, des bases ou des intérêts américains, répliques américaines.
Ça reste des bombardements pas très efficaces.
Frappounettes.
Ça perturbe tout, ça perturbe... En fait, c'est plus perturbateur que efficace militairement. Militairement,
ça sert à rien. Ils ont aussi annoncé, mais est-ce vrai ou pas, on n'a pas de confirmation extérieure et indépendante, que deux pétroliers auraient pris feu après avoir percuté des mines en s'étant écarté du chemin autorisé par l'Iran, donc dans le détroit d'Hormuz. Moi, je n'ai pas réussi à avoir de
propagande iranienne. Méfions-nous de ce genre de déclaration parce qu'il faut beaucoup de...
En même temps, on l'a dit 100 fois, le régime iranien est complètement divisé et continuent de s'entre-déchirer. Et on a l'impression que certaines factions sont ce qu'on pourrait appeler maximalistes, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment envie de s'en prendre plein la figure. Mais le problème de l'autre côté, c'est que les États-Unis n'ont pas l'air décidés à vraiment leur en mettre plein la figure.
C'est ça le problème. Voilà. C'est exactement ça le problème, c'est que les États-Unis, en fait, la politique américaine en ce moment en Iran n'est pas claire.
C'est une demi-mesure.
C'est pas clair.
Une valse hésitation.
La stratégie n'est pas claire non plus. Voilà. Un jour, on bloque leur pétrole, un autre jour, on négocie, un troisième jour, on les bombarde. S'il y avait une stratégie économique, c'est-à-dire de les étouffer économiquement, mais alors ça prend du temps, mais il faut la maintenir, mais changer tout le temps n'est pas efficace. Mais enfin, on va voir ce que ça va donner, mais pour le moment, ce n'est pas prometteur. Ça n'a pas l'air de se terminer,
d'être près de la fin.
Voilà. Non, j'ai l'impression que c'est une affaire qui va durer très longtemps encore.
C'est possible.
On va faire une pause pour le Bobino et on va parler de la France.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
On va reprendre donc cette émission culture et politique sur Radio Courtoisie.
On va parler frites.
On va parler évidemment du lancement un peu tôt, je trouve, de la campagne présidentielle, parce qu'elle a un peu démarré tout de même. Bon, elle a démarré avec, on va être désagréable, on va utiliser des mots pas sympas, de charlots qui font des frites et qui ne sont pas du tout crédibles. Oui. Du tout crédible. Et puis, je vois pas pourquoi, en quoi faire des frites nous qualifie pour être présidentiel. Parce qu'on n'élit pas un président de la République pour finir la cuisine.
Il y a eu une très bonne... Je suis tombé sur une chronique, un billet d'humeur dans la revue Challenge, et qui a une ou deux bonnes formules. Et je suis désolé, je n'ai pas pris le nom du rédacteur, mais c'est dans Challenge. Donc, cette remarque acide, dit le journaliste, part d'un syllogisme poétique clair. Les Français aiment les frites, et pas que dans le Nord. Je montre que j'aime les frites en faisant. J'aime les frites, les gens m'aimeront.
Oui, il y a mieux que ça aussi. Il a raison. Mais il y a aussi je fais peuple. Oui, parce qu'on est dans le Nord. Alors, je mets un tablier, je vais dans la cuisine, je fais des frites, donc je fais partie du peuple. Mais alors, de qui se moque-t-on? Enfin, ils prennent les peuples. En fait, ces gens-là, non seulement ils ne font pas partie du peuple, mais ils ne le connaissent pas parce qu'ils prennent le peuple pour une bande d'imbéciles.
Exactement. Mais alors, on va préciser, nos auditeurs auront reconnu qu'on parlait d'Edouard Philippe.
Oui,
qui s'est commis dans une friterie.
Compère
à Roubaix. Et Darmanin. Il s'est commis avec Darmanin. Il se trouve que Darmanin, et ça, c'est dans Challenge aussi qu'on le rappelle, Darmanin disait en 2019, je vais le citer, que Emmanuel Macron ne parlait pas à la France du sous-sol, à ceux qui boivent de la bière et mangent des frites avec leurs doigts.
Oui.
Voilà. Donc, ce sous-entendu, lui, Darmanin, comprenait mieux la France du sous-sol.
Mais c'est la France du sous-sol, si Monsieur Darmanin veut lui parler, d'accord, ce n'est pas en faisant des frites, en se moquant d'elle, qu'on lui parle.
C'est de la condescendance. Oui. C'est du mépris de classe déguisé, en fait,
je
en
me
proximité.
Fais passer pour ça s'appelle des clowneries. C'est-à-dire que je fais le clown, je t'imite. Et puis en même temps, c'est méprisant, parce que ça veut dire que je me moque de toi, je me rabaisse à toi. Non, on ne te demande pas ça. Et puis surtout, la France du sous-sol, de Monsieur Darmanin, qu'il n'a certainement pas croisé dans les clubs échangistes qu'il fréquentait, parce que c'est, je n'invente rien.
On va revenir
sur cette affaire. C'est pas là qu'il l'a croisé, la France du sous-sol. Elle a besoin, la France du sous-sol, de travailler, de ne pas se faire agresser par des immigrés clandestins. Elle a besoin de justice, de police efficace. Elle a besoin de mesures économiques efficaces pour vivre dignement du fruit de son travail. C'est de ça qu'elle a besoin, la France des sous-sols, pas de voir un clown faire des frites.
En fait, c'est... Moi, je suis assez étonné de penser qu'il y a, en 2026, en France, des communicants politiques qui peuvent penser que ça va convaincre un électeur, que ça va avoir un effet positif sur un électeur, que de se commettre dans cette mascarade. Vous vous rappelez, en fait, tout ça, cette poétique spectacle, qui est en fait une forme assez, assez vile de prostitution, ça a commencé dans les années 80 avec une émission qui s'appelait « La tête et les jambes ». Et c'était à l'époque le premier ministre de Mitterrand, Laurent Fabius, qui était passé dans cette émission, où c'était un peu comme un action-vérité. À un moment, s'il refusait de répondre à une question qui était embarrassante, il devait pédaler sur un vélo d'appartement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment politique grandiose où vraiment, on se demandait jusqu'où allait aller la prostitution télévisuelle de nos hommes politiques, et on en est encore là. Chez qui cela peut-il, ce spectacle de friterie à Roubaix, peut-il provoquer un changement d'avis, une adhésion, une conviction envers Édouard Philippe qui va changer? n'y a pas une personne en France
mais
qui
se dit
tiens. Les
gens ne sont pas bêtes, les gens, ce qu'ils appellent eux les couches populaires, les gens du sous-sol, appelons-le, moi je ne les appelle pas comme ça, ce sont leurs paroles à eux. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont aussi intelligents qu'eux. Hein. Ils ont contrairement à eux, ils ont du bon sens, les gens du peuple. Hein. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir 1000 diplômes, ils ont du flair, ils ont du nez, ils ont du bon sens.
Et ils savent très bien quand on se moque d'eux.
Premièrement. Deuxièmement, vous parliez de communicants. En fait, tous ceux qui portent ce titre de communicants, généralement, ce sont des gens qui vivent sur notre planète, qui n'ont rien compris, qui sont prétentieux, qui viennent donner des... Il faudrait que les hommes politiques se débarrassent de ce que l'on appelle les communicants, parce qu'ils ne leur font faire que des bêtises. Parce que, en fait, les conseils que donnent ces communicants aux hommes politiques sont des conseils de... C'est quoi un communicant ? C'est un publicitaire, un peu. Donc, en fait, il conseille les hommes politiques comme ils conseilleraient une marque pour faire une publicité à la télévision. Ils n'ont pas compris, ces gens, ils n'ont aucune culture politique, ces gens, aucune. Et donc, ils font de la politique comme on vend un paquet de céréales ou un pot de yaourt. Sauf que la politique, c'est pas des pots de yaourt ni du céréale. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et l'homme politique n'est pas un chanteur. Et donc, ce sont des métiers de vendeurs. Un communicant, c'est un vendeur. Mais la politique, ça se vend pas comme ça. Ça se vend d'une autre manière.
Alors ça se vend différemment. On aurait pu. Il y a peut-être eu une époque au moment justement où la démocratie s'est vraiment massifiée, où on a réussi à vendre des candidats sur un programme comme des paquets de lessive. Oui. Je pense pas que ça soit encore le cas en France aujourd'hui, mais ce dont je suis sûr, et on va peut-être l'évoquer en toute fin d'émission quand on parlera d'Edouard Balladur qui vient de mourir, c'est que quand on entend les hommages officiels d'hommes politiques à Edouard Balladur, on a l'impression que ça sort de ChatGPT.
Oui,
ce ne sont que des mots creux assemblés pour faire des phrases creuses. Oui. Il n'y a aucune chair, il n'y a aucune...
Non, mais chaque fois que quelqu'un décède, c'est toujours les mêmes phrases. Hein.
Oui, mais en fait, c'est quand chacun décède. Quand vous inaugurez un conseil régional, quand vous inaugurez une mairie ou une bibliothèque, quand vous inaugurez une statue, quand vous faites un discours de rentrée, quand vous faites un discours de sortie, il n'y a plus un discours politique, ou quasiment plus, qui ne soit plus une enfilade de poncifs.
Tout ça est écrit par des publicitaires.
Oui.
Oui, et vous disiez...
Mais plus personne ne les écoute.
Mais non, mais vous disiez à l'instant qu'il y a une époque où on a voulu vendre la politique, etc. Mais en fait, il y a une époque tout de même, ce qu'on appelle aujourd'hui les communicants, autrefois, c'était des conseillers politiques. La grande différence entre un communicant et un conseiller politique, c'est que le conseiller politique était une personne qui maîtrisait, qui avait du sens politique, qui avait du nez, et qui savait parler politique aux gens. Il ne vendait pas ça comme un pot de yaourt. Marie-France Garraud, lorsqu'elle conseillait Jacques Chirac,
évidemment,
c'était une femme qui avait des idées politiques. Elle lui vendait des idées. Et elle était, à la limite... Si, appelons-la communicant si on veut, mais elle vendait pas des pots de yaourt, elle vendait des idées. Donc c'était pas juste pour faire du spectacle. En fait, les communicants d'aujourd'hui font des hommes politiques des saltimbanques. C'est-à-dire que venez, faites du spectacle et partez. Mais les gens ont besoin d'autre chose. Les gens n'ont pas besoin de saltimbanques. Ils ont besoin qu'on leur parle sérieusement. Pas venir faire le clown.
De choses concrètes. Alors, on évoquera sans doute la semaine prochaine, on va avoir un gros dossier sur l'école, l'éducation nationale. On parlera des promesses des uns et des autres, parce que c'est déjà un sujet de campagne électorale, 9 mois avant la future élection présidentielle. Mais bon, au moins, ils essayent d'avancer quelques idées. Mais par rapport à n'importe quel discours, jusqu'à à peu près, allez, Giscard d'Estaing, quand vous lisez un petit peu les récits, justement, de l'époque de Marie-France Garraud, donc Pompidou... Chirac Premier ministre ou maire de Paris, même Giscard, on est dans une autre dimension.
Oui, mais évidemment.
C'est complètement fini.
Juste rapidement, une proposition concrète de la part du Rassemblement, parce que chez les autres, à part faire des frites, il n'y a pas de proposition, si ce n'est reprendre les vieilles recettes macroniennes, etc. L'interdiction du voile.
Le port du voile dans l'espace public.
Immédiatement, le porte-parole du gouvernement...
A déclaré que de toute façon
c'est infaisable, comme toujours, voilà. C'est infaisable, rien n'est faisable. Dans ce cas-là, fermez le banc, il n'y a rien à dire, ne faites plus rien. Et deux, elle nous dit, dans ce cas-là, il faut interdire aussi tous les signes extérieurs religieux des autres religions. Ça, c'est le truc classique. Dès qu'on parle du voile, on dit « Ah, les autres signes ». Alors peut-on, une fois pour toutes, Pierre-Henri, expliquer que le voile n'est pas juste un signe religieux ?
Alors c'est tout le problème, c'est l'approche, c'est l'angle d'attaque qui reprend la loi sur le port des signes religieux ostentatoires dans les établissements d'enseignement et qui essaye de la prolonger à l'espace public, mais en restant dans le domaine du religieux.
Oui, mais c'est un piège assez, ça.
c'est un piège à nigaud. Et le problème, c'est que justement, en voulant prolonger cette loi-là, on se heurte à des entorses déjà à certaines lois qui existent, en particulier la loi sur la laïcité 1905, etc. Et à une mise en équivalence de quelqu'un qui portera une croix pectorale, mais à partir de combien de centimètres de branche,
ridicule. Mais le voile n'est pas une croix, ni une étoile de David, ni
c'est un signe d'appartenance identitaire.
C'est un drapeau identitaire.
C'est un drapeau identitaire.
C'est du militantisme nationalisto-identitaire. Ce n'est pas une question de religion.
Ce n'est pas une question de religion, c'est une question communautaire.
Moi, je connais des gens, des femmes qui portent un voile, qui ne connaissent rien au Coran, elles ne prient jamais, elles n'ont jamais lu le Coran, et elles mettent le voile pour affirmer leur identité, pour dire « je ne suis pas française ».
Si vous allez fouiller dans les tréfonds d'Internet, vous allez trouver des associations de lesbiennes voilées.
Oui.
Donc
oui.
C'est haram hein, dans l'islam.
Absolument.
Le lesbianisme.
Écoutez, on a tous vu dans la rue des femmes voilées et portant des pantalons hyper moulants
et des
décolletés.
Voilà.
Bon, alors c'est un drapeau.
Donc
plus
tout
que
ça, c'est
malheureusement, on n'a pas pu parler.
C'est une affirmation identitaire. Et le fait de vouloir remettre cette question de l'interdiction du voile dans l'espace public et en plus en passant par un référendum. C'est sans doute pas le bon angle d'attaque. C'est une marotte de. Elle l'a proposé à toutes ses à toutes ses campagnes présidentielles, Marine Le Pen. On est très sceptiques, vous et moi.
On verra bien.
Et
on
n'a
pas pu parler de Balladur, d'Edouard Balladur, mais on en parlera peut-être à la prochaine émission.
La semaine prochaine, sans
sur
doute.
On fera un petit
aparté en début d'émission. Merci, chers auditeurs.
Merci, à très bientôt.
À la semaine prochaine.